Vous écoutez France Culture.
Réplique, actualité de Simone Veil avec Robert Chenavier et Emmanuel Gabellieri. Et penseur polonais, Czesław Miłosz, écrit dans « Empereur de la Terre ». La France fit un don merveilleux au monde moderne en la personne de Simone Veil. La venue au XXe siècle de pareil écrivain défiait toute probabilité, mais il arrive que l'improbable se produise. Dans ce don merveilleux, je ne mettrai pas, personnellement, le rejet par Simone Veil de la source juive, qui me semble témoigner d'un martionnisme aussi affligeant que banal. Mais je voudrais me concentrer sur la grandeur de Simone Veil et sur le besoin que, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons d'elle. À l'occasion du très beau cahier de Lerne qui lui est consacré, j'ai donc invité deux grands spécialistes de la pensée veilienne, Robert Chenavier et Emmanuel Gabellieri, pour une lecture de l'enracinement, son testament spirituel. Et d'abord, j'aimerais que vous nous éclairiez sur les circonstances de la rédaction de ce livre qui nous parle, d'autant plus qu'il est intempestif, inactuel, totalement réfractaire à l'esprit de notre temps. Robert Chenavier.
Oui, alors on peut peut-être rappeler très très brièvement que Simone Veil a quitté Paris, ville ouverte, le 10 juillet 1940, qu'ils sont arrivés à Marseille.
Avec sa famille, c'est ça, quand ils sont arrivés.
Ils sont arrivés, c'est-à-dire Simone Veil et sa famille, en effet, et ses parents, sont arrivés à Marseille en septembre. Et de septembre 40 à mai 42, Simone Veil vivra à Marseille. Elle essaiera évidemment de tout faire pour embarquer pour les États-Unis, pour protéger, mettre ses parents à l'abri, et pour aller à Londres, où elle souhaite continuer la lutte. Donc, elle quittera Marseille le 14 mai 1942, et elle arrivera vers le 6 juillet à New York, où elle restera 4 mois. En novembre, donc 42, eh bien, elle quitte, le 10 novembre 42 exactement, elle quitte New York.
Son frère se trouvait à New York.
Son frère se trouvait aux États-Unis.
Et lui n'a pas quitté les États-Unis.
Non.
Il est resté à New York
tout au long de la guerre. André
Veil,
le mathématicien, l'un des fondateurs du groupe Bourbaki, donc un des génies mathématiques du XXe siècle, effectivement. Donc, elle arrive à Londres le 14 décembre, pense-t-on, 1942. Et là, elle est reçue par André Philippe, qui était commissaire à l'intérieur. Et elle aura pour supérieur direct, pour chef direct, Francis Clauzon, qui était directeur du commissariat à l'intérieur aux côtés d'André Philippe. L'un et l'autre, surtout Clauzon, qui a affaire plus directement à Simone Veil, Clauzon comprend rapidement que le titre de rédactrice qu'on lui a accordé pour qu'elle lise des rapports, qu'elle réfléchisse sur les conditions d'une réforme, d'une nouvelle constitution, dans une France libérée, sont des choses qui finalement ne l'intéressent guère. Et Clauzon a l'intelligence de dire finalement, on lui a laissé écrire ce qu'elle voulait. Heureusement, sinon nous n'aurions pas l'enracinement. Mais il est vrai que ce qu'elle voulait tient compte quand même de ce qu'on lui demande de ce sur quoi on lui demande de réfléchir. Et je crois que peut-être la chiquenaude, on pourrait presque dire, lui donne l'élan pour entreprendre l'enracinement, est peut-être le fait que les membres de la commission de la réforme de l'État à Londres préparaient une déclaration des droits de l'homme. Cette déclaration, publiée par la presse de la France combattante, sera connue seulement le 14 août 1943. Or, Simone Veil est morte le 24 août 1943. Elle n'a pas pu la connaître. Mais elle en connaissait les préparatifs. Elle en connaissait certainement le contenu. Et il est probable que l'ouverture de l'enracinement sur la question des obligations et des droits est une sorte de, à la fois de réponse déjà à cette préparation d'une déclaration et en même temps une anticipation donc très critique de ce qui sera dit à ce moment-là. Et puis l'œuvre prend une grande importance au point qu'elle écrit à ses parents le 14 mai 43 encore. Je crois que j'ai fait un second grand œuvre, le premier étant les réflexions sur les causes de la liberté et de l'oppression de 1934. Donc je crois que je fais un second grand œuvre, ou plutôt je suis en train, car ce n'est pas fini. Et on est le 14 mai 43, elle meurt le 24 août 43.
Elle meurt à Ashford, je crois, dans un sanatorium.
Elle meurt au sanatorium.
Et elle meurt à cause notamment des mortifications qu'elle s'est imposée pour se limiter aux rations des Français ordinaires. Il y a quelque chose.
Non, elle meurt. Oui, les privations jouent probablement un rôle. Moi, je crois que on peut dire, c'est un petit peu ce que dit d'ailleurs Simone Pétremont, c'est un peu ce que pensait aussi Maurice Schumann, qu'elle connaissait bien dès la classe d'Alain, qu'elle a revue à Londres, évidemment. Je crois qu'elle est morte de chagrin, d'une certaine façon. Hein, parce qu'elle elle dit dans un temple de Dieu, dans une lettre au Père Perrin, je crois, elle dit si un besoin de l'âme n'est pas satisfait, si un besoin du corps, comme le besoin de se nourrir, n'est pas satisfait, évidemment, on en meurt, mais il y a des besoins de l'âme qui doivent être satisfaits. Sinon, on peut en mourir. Et elle dit, on peut mourir de chagrin. Et je crois qu'elle est morte du chagrin de ne pas avoir été envoyée en France, parachutée, pour accomplir une mission dangereuse, être exposée comme sa vocation le lui dictait, comme sa nécessité intérieure, comme elle aime dire, le lui dictait. À partir du moment où elle ne peut plus accomplir cette nécessité intérieure, comme elle dit, ça ou autre chose, ce qu'elle fait à Londres ne l'intéresse pas, et finalement, d'une certaine manière, elle dépérit. Mais c'est pas un suicide, on est parfois, elle s'est suicidée, ça n'est pas un suicide, c'est faux. Mais je crois que c'est une perte totale d'énergie vitale, d'une certaine manière.
Et elle est née en 1909, morte en 1943, 34 ans. Emmanuel Gabellieri.
Oui, alors, juste un petit mot que j'ajouterai volontiers sur les circonstances de la mort de Simone Veil. Je soulignerai fortement cette mort par désespoir. Hein, c'est-à-dire que quand on lit, par exemple, à Londres, un des textes les plus poignants pour moi, « Luttons-nous pour la justice », elle dit très fortement que qui a le désir de justice, et elle prend le terme au sens biblique, hein, proche de sainteté, ne peut qu'avoir l'estomac détraqué face au malheur de l'histoire. Et le malheur de l'histoire à l'époque, c'est l'agonie de l'Europe. Et donc, on voit très bien que pour elle, si elle ne peut pas participer directement au combat contre le nazisme, donc cette mission qu'elle veut de projet d'infirme de première ligne réalisé pour la résistance, etc., on lui enlève la raison d'être de son existence dans les circonstances de l'histoire présente. Et donc, il faut avoir l'esprit aussi qu'elle va être atteinte de la tuberculose et qu'il n'y a pas seulement la volonté de se priver pour garder les rations des Français qui souffrent, etc., mais qu'il y a cette conjonction entre cette volonté d'ascèse personnelle, la tuberculose qui fait qu'à l'époque, pour résister, il faut manger beaucoup, et elle est incapable, à un moment donné, de pouvoir garder ce dont elle se nourrit. Donc les médecins qui ont analysé ça ont dit, oui, c'était aussi une incapacité d'assimiler, de digérer, etc. Et le désespoir moral, voilà, font qu'elle va s'affaiblir et avoir une attaque cardiaque qui va conduire à sa mort. C'est pour ça que je renforcerai l'idée qu'il n'y a absolument aucun suicide là-dedans. C'est une conjonction qui l'a conduit irrémédiablement à épouser l'agonie de l'Europe et à s'identifier d'une certaine manière à la croix du Christ, hein, si on se réfère au texte mystique.
Alors,
par ailleurs,
épouser l'agonie de l'Europe, dites-vous, et vous avez dit, Robert Chenavier, qu'elle n'a pas supporté le refus de l'envoyer en France où elle voulait lutter et être exposée avec tout le monde. Mais là, peut-être faut-il revenir un tout petit peu en arrière, parce qu'en 1938, encore, Simone Veil, disciple d'Alain, professait un pacifisme intégral qui faisait de la paix la valeur suprême, qui mettait la paix bien plus haut, me semble-t-il, que la justice. J'ai sous les yeux le livre de Christiane Rancé, Simone Veil, Le courage de l'impossible. Elle rappelle qu'elle défendait ses positions pacifistes sur le principe du moindre mal. Par exemple, pour ce qui est du... Il ne fallait pas partir en guerre pour la Tchécoslovaquie. Les Tchèques peuvent interdire le Parti communiste et exclure les Juifs des fonctions quelque peu importantes, sans perdre quoi que ce soit de leur vie nationale. Bref, injustice pour injustice. Puisqu'il doit y en avoir une de toute manière, choisissons celle qui risque le moins d'amener une guerre. C'était donc Munich. Ensuite, dans une lettre à Gaston Bergerie, elle conseille au gouvernement de cesser de militariser les frontières et de déclarer la neutralité pour que l'Allemagne n'ait aucun prétexte d'invasion. Et il y a cette phrase vraiment terrible. « Sans doute la supériorité des forces allemandes amènerait-elle la France à adopter certaines exclusives, surtout contre les communistes, contre les juifs. Cela est à mes yeux et probablement aux yeux de la plupart des Français à peu près indifférent en soi. On peut fort bien concevoir que rien d'essentiel ne serait touché. » Bon, évidemment, elle ne prévoyait pas ce qui allait se passer, la catastrophe, mais elle anticipait un certain nombre de sacrifices, la Tchécoslovaquie, les communistes et les juifs en France, parce que la paix était pour elle le souverain bien. Donc qu'est-ce qui fait qu'elle a changé ? Robert Chenavier.
Qu'est-ce qui fait qu'elle a changé ? D'abord, les positions qu'elle émet, qu'elle exprime ainsi en 1938, ce sont des positions qui étaient celles, en effet, de pacifistes extrêmes comme elle. Donc, d'une certaine façon, même quand elle évoque les conséquences désastreuses qui pourraient avoir lieu, elle n'a pas une position extrêmement originale. Oui. On va dire, on retrouverait souvent ce type de position. Qu'est-ce qui a changé ? Donc, elle renonce, on va dire progressivement au pacifisme, mais elle l'affirme, ce renoncement, en mars 1939, au moment de l'entrée des troupes hitlériennes à Prague.
Là, ah oui, c'est elle, 39. Oui,
voilà,
c'est ça,
là, elle se rend compte, effectivement, que on ne peut pas faire autrement que s'opposer à Hitler par la force. Et c'est pour cela que dès qu'elle arrive à Marseille, septembre 40, elle essaie de prendre langue avec des réseaux qui lui permettront de passer en Angleterre, car elle pense qu'effectivement l'avenir de la guerre se joue entièrement en Angleterre. Elle ne voit pas de possibilité de résistance intérieure. Elle manque un rendez-vous d'ailleurs certainement avec la résistance intérieure, et elle pense que là il faut combattre. Alors ça ne veut pas dire que elle devienne belliciste, qu'elle renonce à un pacifisme extrême pour devenir belliciste. C'est-à-dire qu'elle réfléchira toujours quand même sur les conditions auxquelles on peut faire une guerre juste, très important, n'est-ce pas ? Luttons-nous pour la justice, elle écrit un texte comme cela, et il n'est pas sûr qu'on soit aussi juste qu'on le pense. Il ne suffit pas de vouloir combattre les nazis pour être juste. Et au fond, son problème, c'est de savoir comment on peut utiliser la force contre un État aussi bassement civilisé que l'État nazi, mais en même temps conserver une forme de pureté, quoi. Et là, effectivement, on aura tous les passages par sa lecture des textes de l'Inde et de la Bhagavad Gita et les aventures d'Arjuna, etc., où elle réfléchit sur comment faire finalement pour être à la fois violent parce que les nécessités l'imposent, mais en même temps faire comme si on n'agissait pas pour des raisons qui soient subjectives ou passionnelles, mais qui relèvent d'une nécessité. Et là, on a quelque chose d'extrêmement intéressant dans le passage d'un pacifisme extrême et intégral assez injustifiable, effectivement, après coup, puisqu'elle-même dira « j'ai commis sur les milieux pacifistes une erreur criminelle ». Elle s'en voudra beaucoup.
Oui, sur ce rapport au pacifisme et au nazisme, je crois quand même qu'il faut ajouter pour un certain nombre de nos auditeurs quelque chose d'important. Elle a été une des premières anti-nazis dès 1933. Hein. Elle va en Allemagne pour s'entendre de la situation. Elle écrit des articles à son retour avec une lucidité que beaucoup de ses contemporains n'ont pas. Et ça, c'est quand même assez remarquable. Et en même temps, elle est pacifiste. Alors, ça nous paraît étonnant, hein, mais il faut avoir à l'esprit que dans les années 30, les trois quarts des Français étaient pacifistes comme elle. Ce n'étaient pas seulement des pacifistes extrémistes qui refusaient de recommencer la Première Guerre mondiale. C'était les trois quarts des Français. Il faut avoir à l'esprit que toute la génération alénienne était dans cet état d'esprit, oui, ne pas recommencer la tragédie de 14-18. Et c'est ça qui a conduit beaucoup de gens de gauche, d'ailleurs des années 30, à être pacifistes jusqu'à 38-39. Et même certains à jouer la collaboration, oui, au-delà. Hein. Ce qui fait que le régime de Vichy n'a pas seulement été soutenu par des régimes de droite au tout début, mais aussi par des gens qui étaient d'horizon de gauche, dirons-nous. Donc ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Et en même temps, de voir que dès qu'elle se rend compte que le passif n'est plus possible, qu'il faut s'opposer à Hitler par les armes, même si elle va rêver d'un mode de combat non violent, comme inspiré par Gandhi, son projet infirme de première ligne, elle va considérer qu'il faut absolument s'engager dans la résistance, mais une résistance qui soit autant spirituelle que militaire. Et là, j'insisterai sur le fait qu'elle s'engage dans la résistance. En France, quand elle est à Marseille, dans le réseau du témoignage chrétien clandestin, il faut savoir quand même qu'elle risquait sa peau hein, à ce niveau-là. Elle s'est vue confier la diffusion du TC clandestin pour tout le Sud-Est par le père Perrin et son équipe. Et c'est à partir de là qu'elle va vouloir faire le lien de la résistance intérieure française et la France libre du général de Gaulle à Londres. C'est très important d'avoir à l'esprit qu'elle s'est quand même engagée très fortement et au risque de sa vie, on le voit bien ensuite dans son projet infirme de première ligne, dans ce combat.
Donc, peut-être que ce souci d'une résistance juste tient également à l'expérience qu'elle a faite en Espagne. Vous avez publié, absolument, Manuel Gabellieri, dans les Cahiers de Lerne, la lettre qu'elle a écrite à Bernanos pour le remercier des cimetières sous la lune. Oui. Bernanos dénonce les atrocités des franquistes, lui qui vient de la droite, qui est encore à l'Action française, enfin où qu'il était. Mmh. Et puis elle dit, mais moi j'ai vu les atrocités du camp d'en face et c'était absolument terrible. Donc, il y a eu aussi ce traumatisme-là qui doit sans doute l'accompagner au moment où elle choisit la résistance, Robert Genavier.
Oui, ce traumatisme l'accompagne. C'est bien pour ça qu'elle pose la question « Luttons-nous pour la justice ?» et comment lutter pour la justice ? Effectivement, cela dit, les atrocités qu'elle a vues en Espagne, où elle dit finalement, lorsque tombent toutes les règles qui empêchent de tuer, plus rien n'empêche personne d'accomplir des actes barbares, sans être barbare finalement soi-même, n'est-ce pas ? On peut commettre des barbaries sans être un barbare. Mais ça aurait pu renforcer finalement plutôt son pacifisme. Oui. Et au départ, ça le renforce, parce qu'elle dit finalement, si nous avons, en 38, elle dit, si nous avons abandonné des camarades très chers et une révolution qui nous est aussi sympathique que celle d'Espagne, elle était donc non-interventionniste, ce n'est pas effectivement pour aller faire la guerre pour la Tchécoslovaquie et pour les Sudètes. Mais au fond, c'est là que sa position est complexe, c'est qu'elle passe à une forme de nécessité de la résistance qui est, comme le disait Emmanuel Gabellieri, qui est spirituelle. Bon, parce que quelque chose s'est passé effectivement entre 1936 et on va dire 1938 chez elle, qui n'est pas une conversion, puisqu'elle refuse le mot conversion, mais qui est l'accès, en effet, qui est un seuil franchi à un niveau spirituel. Et il est certain qu'elle n'envisagera plus ni la politique ni la guerre de la même façon qu'elle l'envisageait en 1937, où ses références allaient beaucoup, d'ailleurs encore à Machiavel, etc., et à une politique, j'allais dire, technicienne. Elle pense que la question politique telle qu'elle est posée par la guerre devient aussi une question spirituelle. Que nous soyons libérés par les soldats soviétiques ou que nous soyons libérés, comme elle le dit, par l'argent et par les usines américaines, nous serons de toute façon dans une certaine forme de vassalité. Donc il faut préparer la libération, pas seulement de la France, mais de l'Europe, en envisageant un point de vue qui serait un point de vue spirituel et qui ne serait pas du tout le point de vue auquel elle envisageait les choses
avant cela.
Alors justement,
point de vue spirituel, le livre s'ouvre sur une sorte d'énumération splendide de ce qu'elle appelle les besoins de l'âme. Donc nous sommes à la fois au cœur de la résistance, mais aussi, si j'ose dire, après. C'est-à-dire, quel régime politique peut satisfaire les besoins de l'âme ? Est-ce simplement la démocratie, la République, mais à quelles conditions ? Et aussi, quels sont ces besoins de l'âme énoncés par Simone Veil ? Il y a là, me semble-t-il, une innovation philosophique, politique et morale absolument extraordinaire et qui va très au-delà, simplement, d'un texte de circonstance pour la résistance, Emmanuel Gabellieri.
Oui, oui. Alors, si on articule cela à la contextualisation de l'enracinement dont on parlait tout à l'heure, moi, j'accorde une grande importance au débat que Simone Veil va avoir avec Jacques Maritain, de manière un peu feutrée, implicite, indirecte, mais pour justement penser ce que ces besoins de l'âme doivent avoir d'absolument nouveau par rapport à une pure problématique des droits de l'homme issue des Lumières, ou bien par rapport à la problématique catholique traditionnelle que représente un Jacques Maritain. J'ai essayé de montrer dans mes propres travaux, dans mon livre « Être et don, Simone Veil, la philosophie », notamment paru à la Bibliothèque philosophique de Louvain, et puis dans mes articles depuis, que ce rapport à Maritain a sans doute pas été assez étudié jusqu'à présent. Et dans la réédition critique dont nous allons parler, je trouve que là aussi, il aurait fallu donner une place sans doute plus importante à cela. Enfin, c'est mon avis, on pourra en parler avec Robert Chenavier. Voilà, il faut avoir à l'esprit la chose suivante. Dans les lettres au père Perrin, on voit ce débat avec Maritain apparaître. Elle dit au père Perrin, vous n'êtes pas assez catholique, il faut inventer un nouveau style de sainteté à la hauteur des enjeux du présent. Et elle reprend la problématique qui est celle de Maritain dans Humanisme intégral en 1936. Et cette problématique va être réactivée en 1942 quand elle arrive à New York, où elle doit rencontrer Jacques Maritain. Elle est porteuse de messages de la résistance française, du réseau du TCC clandestin, du père Perrin, etc. Et elle va tomber sur le livre que Jacques Maritain écrit en 1942, « Les droits de l'homme et la loi naturelle » par Jacques Maritain, édition de la Maison française. J'ai entre les mains l'édition originale de 1942 que Simone Veil a forcément eu entre les mains, puisqu'on voit ce texte cité ensuite dans les écrits de Londres. Et j'ai cherché à étudier ce lien parce que on voit dans les brouillons de lettres que Simone Veil écrit pour le père Perrin juste avant son départ de Marseille, notamment ce que j'ai appelé la lettre inédite du 14 mai 1942, s'engager le débat avec Maritain sur deux ou trois points principaux. Elle vise le personnalisme de Maritain qui lui paraît, à contresens à mon avis, mais enfin c'est très important de voir qu'elle le voit comme ça, un individualisme naturaliste où les droits de l'homme s'assoient sur une définition de la nature humaine qui vaudrait pour elle-même dans son immanence. Et elle sera antipersonnaliste aussi à l'égard de Mounier, d'une manière qui me paraît injuste. Mais enfin, c'est fondamental de voir qu'elle a ce point de vue. Ensuite, elle reproche à Maritain de penser un style de sainteté qui n'est pas assez à la hauteur des enjeux du présent. Par exemple, je crois, chez Maritain, elle ne voit pas la philosophie du travail et de l'économie, qui, pour elle, est si importante pour la civilisation nouvelle à créer. Et puis, elle voit la problématique des droits de l'homme comme quelque chose qui ne répond pas à la problématique des besoins de l'âme.
Bon, alors ça, c'est très important, parce que, justement, aujourd'hui, le vocabulaire moral, c'est toujours celui des droits. Alors, c'est pas, si vous voulez, une pensée forcément inspirée par Maritain, mais les droits de l'homme sont pour beaucoup l'alpha et l'oméga de la morale et d'une politique démocratique qui vise à la libération, à l'égalité de tous et à la libération des individus. Or, le livre de Simone Veil commence par le mot « obligation ».
Voilà, c'est ça.
C'est le terme central, l'obligation. Et ensuite, les besoins de l'âme, c'est autre chose que les droits de l'homme. Et en plus, parce que ce sont des paires contradictoires. C'est ça qui est extraordinaire. Besoin d'égalité, mais aussi besoin d'obéissance, besoin de liberté, non, besoin de liberté, mais aussi besoin d'obéissance, besoin d'égalité, mais aussi besoin de hiérarchie, besoin de châtiment. Elle a des mots tout à fait extraordinaires sur le besoin de châtiment, besoin de sécurité, besoin de risque, autant de besoins vitaux sur le châtiment. Le châtiment le plus indispensable à l'âme est celui du crime. Par le crime, un homme se met lui-même hors du réseau d'obligations éternelles qui lie chaque être humain à tous les autres. Il ne peut y être réintégré que par le châtiment, pleinement s'il y a consentement de sa part, sinon imparfaitement. Bon, l'espèce de vulgate rousseauiste qui règne aujourd'hui et qui impute, disons, la responsabilité des crimes à la société, etc., nous rend tout à fait, au départ en tout cas, imperméable à ce genre de discours. Oui. Donc, il y a là, si vous voulez, en effet, une réflexion qui s'inscrit en faux contre l'idolâtrie des droits de l'homme, Robert Chenavier.
Oui, alors précisément pour que nos auditeurs qui prendront en main l'édition de l'Enracinement ne referment pas tout de suite en disant « bon, c'est une fichue réactionnaire, voilà, rétrograde, on connaît ce discours, les devoirs contre les droits », disons des choses très simples. C'est vrai qu'elle remplace le couple droit-devoir par le couple besoin-obligation. Mais quand elle parle d'obligation, il ne s'agit jamais d'obligation que les individus auraient envers un État ou envers une autorité politique. Il s'agit des obligations envers les hommes. envers les individus, envers les besoins justement de l'âme de ces individus. C'est-à-dire que l'obligation, elle s'impose d'abord à ceux qui gouvernent, elle s'impose d'abord à l'État. Donc on n'est pas dans une perspective de réactionnaire qui dirait d'abord les devoirs et ensuite les droits. Si elle dit l'obligation prime le droit, c'est parce qu'elle dit le droit à toute sa place, mais dans ce qu'elle appelle la région moyenne. Mais il y a toujours quelque chose d'un marchandage, il y a toujours quelque chose d'un rapport de force dans les droits. Et au fond, seule l'obligation est inconditionnelle. Et par conséquent, elle n'a pas l'impression, parce qu'on va dire « oui, alors c'est très anti-républicain », c'est très... Bon, elle n'a pas du tout l'impression d'être complètement affrontée, totalement affrontée aux hommes de 1789, comme elle le dit. Elle dit que la date de 1789, elle dit ça dans l'Enracinement, la date de 1789 éveille un écho bien autrement profond que les institutions de la Troisième République. Et chez elle, il y a un écho. Elle dit simplement « nous sommes finalement dans la guerre où nous sommes actuellement. Nous sommes dans la situation, finalement, cette espèce de point zéro de la France contemporaine, où en était la France en 1789, au moment de la préparation de la réunion des États généraux. » Elle dit « au fond, la situation de la France est telle qu'aujourd'hui, on peut reprendre ces problèmes posés par les hommes de 89, mais ils ont cru qu'on pouvait tout fonder sur le droit, alors que le droit n'appartient qu'à cette région moyenne. Donc il faut, au-dessus des institutions de la démocratie et de la République, dont le droit, les procédures démocratiques, etc., il faut, au-dessus de cela, des institutions qui puissent fonder, légitimer. Et légitimer, ça veut dire légitimer dans la continuité, et légitimer même pour elle, j'allais dire, éternellement. Alors que le droit ne veut pas le faire. Le droit est trop changeant aussi selon les circonstances, etc. Il faut quelque chose qui soit plus fort, plus éternel, et donc plus légitime que les droits. Et plus impersonnel, d'une certaine façon. D'où la notion de besoin qui est plus objective, lui semble-t-il, parce qu'on peut ne pas reconnaître les droits de quelqu'un parce qu'il nous semble que ces droits ne nous parlent pas, ne nous concernent pas, alors que les besoins de quelqu'un nous concerneront toujours. S'il a faim, il a faim. Ce n'est pas une question de droit, il faut le nourrir. Si son âme a faim, eh bien, il faut la nourrir aussi. On ne peut pas dire « cela ne me concerne pas, je suis obligé ».
Parmi ces besoins qui obligent, il y en a un central, puisqu'il a donné le titre, enfin, je crois que c'est Camus qui a choisi d'appeler...
Probablement.
Puisque c'est lui qui l'a publié en 1951, qui a donné son titre, en tout cas, L'Enracinement. Et Simone Veil écrit, et j'aimerais avoir vos lumières, « L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle, à l'existence d'une collectivité qui conserve vivant certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. » Alors, comment faut-il lire cet éloge de l'enracinement ? Emmanuel Gabelieri.
Alors, je pense que derrière ce mot enracinement qui enthousiasme les uns, qui fait peur aux autres, il y a des notions plus importantes et peut-être encore plus spécifiquement véliennes, et notamment une expression qui fait un fil continu entre les textes des années 30 et ceux de Londres, c'est la notion de milieu vital. Parce qu'elle l'applique dès les années 30 à certaines réflexions qui vont de la philosophie à la politique. Et on voit cette expression se poursuivre jusqu'à la fin avec sa théorie des métaxus dans l'ordre ontologique.
Ça veut dire quoi, les métaxus ?
Les médiations, médiation. Au sens de l'intermédiaire chez Platon. Elle reprend le terme au vocabulaire platonicien lorsque Platon considère que toutes les réalités du monde, si elles sont vécues en vérité, sont des ponts vers Dieu. Et donc le beau, le vrai, le bien, les vérités des sciences, comme les beautés de l'art, comme la beauté du monde, sont des métaxus vers Dieu. Et quand elle déploie la problématique de l'enracinement à Londres, elle élargit cette notion de métaxus à tout l'ordre de la culture, d'une manière qui se neuve. Parce que justement, il s'agit pour elle de réarticuler politique et spiritualité d'une manière qui soit enracinée dans certaines traditions, mais en tenant compte des conditions d'existence de la modernité. Et un milieu vital, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça renvoie à toute une réflexion sur ce qu'on peut appeler, d'une part, les corps intermédiaires entre l'individu et l'État. Elle en veut à l'État-nation de la modernité, à l'État souverain qui, en quelque sorte, phagocyte toute la souveraineté, toute la puissance de sens pour les modernes. Et elle réfléchit à la valeur de ce qu'on appelle les corps intermédiaires entre l'individu et l'État. Donc, ce qui fait ses accents d'une philosophie un peu organique au plan social qui la rapproche d'une pensée qu'on peut trouver chez Thibon, par exemple, pendant la guerre aussi, avec laquelle elle a dialogué en France. Et ensuite, il y a aussi une réflexion très profonde, je trouve, chez elle, sur l'enracinement, le milieu vital, comme lien entre le passé et l'avenir.
Ah oui,
et c'est là où elle insiste sur la notion d'héritage, de la civilisation comme tradition créatrice, hein, qui doit se recréer dans le présent et produire un avenir nouveau, mais à partir de ce qui a été reçu par le passé. Et ça, je crois que c'est extrêmement important chez elle. Dans mon travail de 2003, j'avais intitulé cela « Une ontodologie de l'histoire » chez Simone Weil. C'est-à-dire, en reprenant l'expression de Bruère d'ontodologie, hein, une ontologie de l'être comme don, on voit qu'elle pense la civilisation comme quelque chose qui est donné par le passé, que l'on reçoit, et qu'on doit redonner aux générations futures, mais enrichi par ce qu'on a pu créer de neuf à partir de là. Mais elle insiste sur le fait qu'on ne peut créer du neuf qu'à partir de ce qu'on a reçu. Il y a des formules vraiment admirables.
Alors, d'ailleurs, je voudrais en citer deux, parce que je trouve qu'elle, non seulement elle nous parle, mais elle interpelle le présent, un présent qui aime à partager le monde entre progressistes et réactionnaires. Il serait vain de se détourner du passé pour ne penser qu'à l'avenir. C'est une illusion dangereuse de croire qu'il y ait même là une possibilité. L'opposition entre l'avenir et le passé est absurde. L'avenir ne nous apporte rien, ne nous donne rien. C'est nous qui, pour le construire, devons tout lui donner notre vie elle-même. Mais pour donner, il faut posséder, et nous ne possédons d'autre vie, d'autre sève, que les trésors hérités du passé et digérés, assimilés, recréés par nous, de tous les besoins de l'âme. Il n'y en a pas de plus vital que le passé. Et ce passage tout à fait extraordinaire et que j'invite nos décideurs à méditer, la perte du passé collectif ou individuel est la grande tragédie humaine et nous avons jeté le nôtre comme un enfant déchire une rose. Je trouve ce passage absolument magnifique, mais alors là vraiment ça met Simone Weil en porte-à-faux avec l'humeur dominante du temps présent, me semble-t-il. En tout cas, vous dites qu'elle n'est pas réactionnaire, mais elle pourrait être qualifiée de telle dans l'éloge qu'elle fait de l'héritage, de la tradition, du passé. Mais une tradition vivante, évidemment, pas
c'est
un dépôt mort.
C'est ce qui me paraît important, parce qu'on trouverait aussi dans l'enracinement l'expression, je cite de mémoire, hein, l'expression selon laquelle on ne peut pas non plus chercher dans le passé justement des solutions et revenir à quelque chose qui serait donné dans le passé. En ce sens-là, elle n'est pas du tout traditionnaliste.
Non, bien sûr.
Elle dit, et là l'expression est chez elle, elle dit « le passé est imparfait ». Donc elle peut dire, en effet, on a perdu le passé, on est déraciné, mais en même temps, le passé est imparfait. Parce qu'effectivement, bon, selon l'expression que vous avez employée, ce qui compte, ce sont les traces ou les signes de ce qui est toujours vivant dans le passé qui compte. Mais l'histoire étant faite par les vainqueurs, il faut bien reconnaître qu'elle pourrait dire un peu comme Rousseau dans le discours sur l'origine de l'inégalité, écartons tous les faits. Parce que d'une certaine façon, qu'est-ce que nous connaissons du passé ? Ce que les vainqueurs nous en ont dit ? Et les vaincus ? Il faut que nous allions chercher des signes, il faut que nous allions chercher quelques traces. Et elle se livre là à une espèce de contre-histoire qui fait qu'elle a une lecture du passé qui n'est pas évidemment une lecture d'historien, parce que les historiens s'appuient sur les documents, mais tous les documents sont des documents des vainqueurs, donc ils ne valent rien.
Elle va un peu trop loin. D'ailleurs.
Donc il faut faire tordre le bâton dans l'autre sens et faire des hypothèses.
Vive les Gaulois, bas les Romains.
Voilà.
Et les druides
si
sont
veut.
Merveilleux.
Bon, les druides sont merveilleux. Alors c'est ça. Donc c'est ce passé-là quand même.
Oui.
C'est ce passé-là.
Oui.
C'est pas n'importe quel passé.
C'est, en même temps, c'est ce passé-là et pas n'importe quel passé. Un passé d'ailleurs qu'elle a tendance à idéaliser, le passé des vainqueurs. Mais quand même, elle parle à un moment donné d'un besoin de continuité.
Oui.
Et que ça, c'est un des besoins essentiels. Et là, elle rejoint un thème développé peu d'années avant elle, par Ortega et Gasset, dans La révolte des masses, où il dit qu'un certain nombre de révolutions incontinentes, dans leur hâte hypocritement généreuse de proclamer de nouveaux droits, ont toujours violé, foulé, détruit le droit fondamental de l'homme, si fondamental qu'il en est la définition même de sa substance, le droit à la continuité. Et c'est vrai, donc là-dessus quand même, il faut aussi que l'école, par exemple, puisse assurer une continuité historique et non pas rompre avec le passé en le regardant du haut de la supériorité de tous les droits que nous venons de conquérir. Donc, il me semble quand même que là, c'est pas simplement le passé des vaincus, c'est en quelque sorte le trésor de la civilisation qui est en jeu. oui, dans oui. ce qu'elle dit du passé.
Mais il est souvent chez les vaincus. Pour, il est souvent chez les vaincus oui. pour elle, ce, oui. ce trésor. Oui, L'Occitanie, les Carthaginois, les druides, etc. Et c'est cela. Alors, la continuité, oui, ah, parce oui. que l'idée de continuité est liée chez elle à une idée de légitimité, finalement. C'est-à-dire, l'histoire telle qu'elle s'est déroulée, faite par les vainqueurs, ne peut rien fonder, finalement. Donc, si on cherche une forme de continuité, c'est une forme de continuité qui puisse légitimer toute forme de pouvoir politique et toute forme de réforme de la France, par exemple, au moment de la libération. Donc ça, ça suppose effectivement qu'on ne rompe pas. Oui.
Emmanuel Gabalieri.
Oui, je crois qu'il faudrait peut-être dire qu'il y a plusieurs sortes de passé, il y a plusieurs sens du passé, plusieurs couches de sens du passé, un peu comme Aristote disait qu'il y a plusieurs sens de l'être. Il y a le passé des traditionalistes, hein, purement conservateurs, il y a le passé des révolutionnaires faisant du passé table rase, et le passé de Simone Veil, c'est un passé qui obéit à plusieurs herméneutiques. Alors, c'est pas le passé de l'historien, par exemple, qui souvent en reste à l'histoire bataille, comme on dit volontiers, ou à l'histoire des vainqueurs ou des vaincus, selon le cas. Mais c'est le passé qui s'est cristallisé dans des institutions, dans des coutumes, dans des traditions, dans des mythologies, dans toutes les dimensions de la culture, et qui souvent sont pas forcément objet d'un discours solennel. Hein. La civilisation, la culture au sens Simone Veil, c'est ce qui est vécu et pas forcément toujours théorisé autant qu'il le faudrait. Et donc je crois que c'est important d'avoir cela à l'esprit. Elle sort donc de cette dialectique, elle veut sortir de cette dialectique vaincu-vainqueur en cherchant toutes les traces de passé qui sont un peu implicites, mais qui font l'épaisseur de la culture et le lien entre les générations. Et c'est cette manière de lier les générations entre elles, en voyant qu'elles sont à chaque fois un pouvoir d'action et de recréation de leurs conditions d'existence, mais qu'elles héritent de leurs conditions d'existence, qui a quelque chose de tout à fait spécifique à la pensée de la culture de Simone Veil.
Oui, alors en même temps, je reviendrai à la question de l'enracinement, mais elle va très loin où elle est très réductrice plutôt dans la définition qu'elle donne de la grandeur et donc dans ce qu'il faut garder en mémoire de ce trésor du passé, puisqu'elle explique qu'il y a un point de grandeur où le génie créateur de beauté, le génie révélateur de vérité, l'héroïsme et la sainteté sont indiscernables. Et ça arrive chez Eschyle et Sophocle, pas du tout, selon elle, chez Virgile. Le cantique de saint François d'Assise, ce joyau de beauté parfaite, vaut mieux que toute l'œuvre de Victor Hugo. Et dit-elle, Racine a écrit la seule œuvre de toute la littérature française qui puisse être mise à côté des grands chefs-d'œuvre grecs au moment où son âme était travaillée par la conversion. C'est-à-dire, c'est Athalie, ce n'est pas Phèdre ou Bérénice. Elle veut, si vous voulez, qu'on ne nous souvenions que d'une littérature dont les auteurs auraient été eux-mêmes d'une pureté cristalline, proche de la sainteté. Il y a là quand même un moralisme de la culture qui... disons, peut heurter, ou en tout cas, peut ne pas emporter l'adhésion, Robert Chevalier.
Un moralisme de la culture, je ne sais pas. Pourquoi un moralisme de la culture?
Mais parce que, par exemple, je vous donne l'exemple, la réponse, si je peux très anticiper, que fait Diderot dans Le Neveu de Rameau. Ouais. Il dit Racine avait du génie et ne passait pas pour un trop bon homme. Oui. Dans son dialogue avec Rameau, le neveu de Rameau, Rameau dit mon oncle est odieux, et Diderot lui répond, peut-être, mais enfin, de toute façon, c'est pas, on ne sait pas si ce sera un très grand musicien. En revanche, Racine, on sait, et il dit, lequel des deux préféreriez-vous, ou qu'il eût été un bon homme, faisant régulièrement tous les ans un enfant légitime à sa femme, bon mari, bon père, bon oncle, bon voisin, honnête commerçant, mais rien de plus, ou qu'il eût été fourbe, traître, ambitieux, envieux, méchant, mais auteur d'Andromaque, de Britannicus, d'Iphigénie, de Phèdre, d'Athalie. Il n'a pas forcément envie que Racine soit méchant, mais il prend ce scandale, cette ambiguïté, cette difficulté. Il me semble que cette difficulté, Simone Veil la résout un peu trop facilement, quoi, dans l'objectif de sainteté qui est le sien. Voilà, c'est là pour ça que je parle de moralisme, Robert Chenavier. Pas d'accord, mais...
C'est-à-dire que je pense que il y a quand elle juge de l'histoire de la littérature, de la poésie, etc., et des œuvres d'art en général, elle dit il y a du premier ordre et puis il y a du deuxième, du troisième ordre, etc. Qu'est-ce qu'elle appelle le premier ordre? C'est quand même toujours les poètes ou les artistes qui précisément n'ont jamais donné la moindre preuve de servitude. Donc, elle n'aime pas Corneille parce qu'elle dit que c'était quelqu'un qui était trop laudateur des pouvoirs, trop asservi, etc. En revanche, elle aime Villon. François Villon, elle aime Racine parce que elle y voit quelque chose qui lui paraît plus pur, comme elle aimera Rétif de la Bretonne.
Oui, mais elle dit,
etc. Elle y voit une forme de pureté.
Il est très pur, il est merveilleux quand il est proche de la conversion. Donc ça, quand même.
Ah,
alors oui, tout le monde dit que Racine n'était pas du tout. Un type sympathique, quoi.
C'est possible.
Est-ce que
Villon était sympathique,
mais elle a l'air de vouloir non seulement qu'il soit sympathique, mais qu'il y ait en eux une espèce de perfection morale. C'est-à-dire que toutes les perfections se rejoignent dans l'œuvre.
Oui.
C'est cette naïveté-là que...
Dans l'œuvre.
Dans l'œuvre, vous avez raison. Pas forcément, oui.
Mais c'est une naïveté platonicienne. Hein.
Alors, voilà,
platonicienne. Platon était naïf, c'est-à-dire qu'il y a le rêve chez Simone Veil que génie et sainteté coïncident.
Voilà.
On peut le dire de manière métaphysique, que le vrai, le beau et le bien coïncident. Ah, voilà. Et un des drames de la création, c'est que le beau et le bien ne coïncident pas toujours.
Oui.
Mais on rêverait tous que ça soit le cas.
Oui,
d'accord,
c'est vrai.
Et il y a cette fracture. Et donc l'idée que les génies de premier ordre sont proches de la sainteté s'ils ne sont pas des saints, pour elle, devrait être une évidence spirituelle dans toute culture. Est-ce que c'est exact? Est-ce que c'est partageable à 100%? C'est pas évident. Mais il y a cette intention, un petit peu comme elle voudrait... que la grande politique soit sainte. Hein. On retient bien sur la problématique de l'enracinement et des textes de Londres. Elle rêverait que la légitimité du pouvoir s'enracine dans des vertus morales et mystiques, quasiment. Ce qui, là aussi, paraîtra une naïveté platonicienne.
Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en effet, un de ses premiers textes, c'est une dissertation qu'elle a faite dans la classe d'Alain, sur le beau et le bien,
oui.
Qui a fasciné Alain. Elle parle, semble-t-il, de la scène d'Alexandre, assoiffé dans le désert, qui accepte l'eau qu'un soldat lui apporte dans un casque, puis calmement devant l'armée, comme s'il accomplissait un geste liturgique, la répand lentement par terre. Et, commentaire de Simone Veil, dans cette copie d'élèves, chaque saint a répandu l'eau, chaque saint a refusé tout bonheur qui le séparerait des souffrances des hommes. Le bien est donc le mouvement par lequel on s'arrache à soi en tant qu'individu, c'est-à-dire en tant qu'animal, pour s'affirmer homme, c'est-à-dire participant de Dieu.
Ah oui.
Donc c'est,
oui.
Voilà.
Mais c'est intéressant que cette sainteté ne soit pas un arrachement. Enfin, on dit le saint, c'est le séparer. Ben, pour elle, non. Le saint, c'est celui qui redescend dans la caverne, précisément. Et c'est celui qui peut faire partager ce bien par sa propre conduite. Enfin, quand elle dit on n'a pas besoin d'un nouvel ordre religieux avec couvent et robe de bure, parce que ça, c'est une séparation. En revanche, on a besoin de gens qui aient une haute éducation philosophique, culturelle, théologique, et qui, anonymement, aillent dans les prisons, aillent dans les usines, aillent aux champs pour travailler, et sans même manifester une quelconque appartenance religieuse, ou sans même assister aux cérémonies religieuses. La religion cachée, c'est quand même... un dieu qui s'est retiré du monde, eh bien, il faut qu'il ait une religion cachée. Et au fond, quand elle dit la sainteté est un minimum pour un chrétien, ce qui est quand même extraordinaire dans une lettre à Schumann, mais c'est cette sainteté-là. C'est pas la sainteté qui élève au-dessus des hommes, c'est la sainteté qui fait que, après avoir contemplé le bien, le beau, le vrai, etc., on redevient un homme simplement homme, mais... pour y achever la création.
Elle magnifie ce geste d'Alexandre, et voilà. C'est la même Simone Veil qui... dans l'enracinement, écrit « L'essentiel est de n'admirer que ce qu'on peut admirer de toute son âme. Qui peut admirer Alexandre de toute son âme s'il n'a l'âme basse ?» Elle n'oublie pas le conquérant.
Mais sur cette volonté de faire coïncider donc génie et sainteté ou bien politique et sainteté, on sourit parfois quand on voit dans ce qu'elle écrit l'insistance sur le fait que les grands hommes politiques sont ceux qui doivent rechercher la justice et pas le pouvoir. Et on se dit, mais ça c'est irréaliste, etc. Mais quand on regarde le XXe siècle, quels sont les grands hommes politiques qu'on admire? Un Lech Walesa, un Vaclav Havel, un Nelson Mandela, c'est précisément des hommes politiques qui n'ont pas cherché le pouvoir. Et c'est ceux-là qui ont réussi à garder leur âme, à sauver leur âme, comme elle le dirait à la suite de Platon, le mieux possible, tout en ayant le pouvoir, mais d'une manière qui, justement, les élève au-dessus de cette soif de puissance qui agite tellement les hommes politiques au pouvoir. Et pour revenir à l'enracinement, la manière avec laquelle elle voit le pouvoir du général de Gaulle, tant qu'il est responsable de la France libre, c'est précisément cela. C'est-à-dire qu'elle souligne que c'est un pouvoir spirituel plutôt qu'un pouvoir politique au sens classique. Et là, il y a une référence qu'il faut faire, je crois, parce que ça n'a pas été étudié jusqu'à présent. Je ne sais pas si la prochaine édition de l'Enracinement, qui se veut différente de celle des œuvres complètes que Florence Delucy et Michel Narcy préparent là, pour le printemps, je crois, va étudier cela de près. Mais je pense que Simone Veil a été inspirée dans ses lectures du témoignage chrétien clandestin pendant la guerre par le fameux texte du père Fessard sur le prince esclave, sur le régime de Vichy, où, à propos de ce duel, de ce conflit entre Vichy et De Gaulle, le père Fessard dit qu'il faut penser le nouveau pouvoir pour la France nouvelle comme une direction de conscience à l'échelle d'un pays. Mmh. On retrouve la formule littéralement chez Simone Veil, donc je pense qu'elle a lu Fessard et que là, il y a un travail à faire. Et c'est cette idée d'un pouvoir politique qui pourrait être en même temps un pouvoir spirituel, parce qu'il n'est pas encore habité par la logique du pouvoir et qu'il y a une inspiration spirituelle qui est première et essentielle. Alors vous savez qu'elle va démissionner de la France libre quelques temps avant sa mort parce qu'elle craint que la mystique se dégrade en politique. Oui. Mais elle a cette analyse de De Gaulle qui est très frappante en le voyant comme quelqu'un qui a une mission spirituelle avant d'avoir une mission politique.
Je voudrais qu'on revienne, enfin, tout en restant à ce stade spirituel, si je peux dire, au thème de l'enracinement. Ce thème aujourd'hui est mal vu, justement par un esprit du temps qui se laisse moins inspirer par le passé qu'il ne le juge, qui ne lui met des notes. Et par exemple, Svetlana Todorov, dans « Nous et les autres », dit très sérieusement « Barrès a eu tort de parler de déracinement, projetant l'humain dans le végétal, et Simone Veil a eu tort, dans une réflexion cependant infiniment plus générale, de reprendre le terme. » Voilà. Donc, elle a eu tort, elle est fautive, etc. Mais, moi, il me semble que cette réflexion sur l'enracinement vient aussi de ce qui lui apparaît comme le grand traumatisme de la défaite. Un traumatisme qu'on a oublié, parce qu'on pense que la Révolution nationale, c'est le nationalisme. Mais voici ce qu'elle écrit. « Le peuple français, en juin et juillet 1940, n'a pas été un peuple à qui des escrocs cachés dans l'ombre ont soudain, par surprise, volé sa patrie. C'est un peuple qui a ouvert la main et laissé la patrie tomber par terre. » Et elle dit à un autre moment, « Les Français n'avaient que la France à quoi être fidèles. » Et on a vu ce cas d'odieux et de pitoyable, un peuple qui n'est tenu à rien par aucune fidélité. Donc l'enracinement, c'est aussi cela. La patrie comme milieu vital et cette incapacité des Français à défendre, à un moment donné, ce milieu vital du fait du déracinement, en quelque sorte, qui depuis longtemps les travaillait. Robert Genavier.
Oui, je crois qu'il faut bien comprendre une chose quand on emploie le terme enracinement. Vous avez cité un texte de Todorov. Elle reprend le mot enracinement. À ma connaissance, elle ne le reprend pas à Barrès. Barrès parle beaucoup des déracinés, qui sont d'ailleurs chez lui les déclassés plutôt, mais pas d'enracinement. Et chez Barrès, l'enracinement, si enracinement il y a, c'est celui de la terre et des morts. Or, c'est pas du tout la conception que Simone Veil a de l'enracinement. L'enracinement, pour elle, c'est un besoin, c'est un rétablissement de relations multiples. De relations multiples, naturelles, sociales, surnaturelles, avec le monde et à travers des milieux différents, culture, travail, tradition, spiritualité. Donc si la notion de patrie a une certaine importance pour elle, si elle développe tant de choses à propos de la notion de patrie, c'est vrai que c'est parce que la patrie est ce milieu vital qui permet à tous ces milieux vitaux de s'exprimer et qui leur permet d'avoir des relations entre eux. L'enracinement n'est pas quelque chose d'univoque, quelque chose d'uniforme, etc. C'est la multiplication des relations. Et il est vrai que quand quelque chose comme la patrie s'effondre, eh bien c'est tous ces tissus, tous ces milieux qui s'effondrent. Et c'est en ce sens-là. C'est pas au sens simplement où les hommes auraient perdu le rapport à la terre ou le rapport à je ne sais quoi. Ça n'a pas grand-chose à voir avec Simone Veil, même si quand on lit distraitement l'enracinement, c'est ce qu'on peut comprendre. Mais l'enracinement est un texte qui n'est pas à mettre entre toutes les mains et c'est un texte qui est très dangereux pour les esprits faibles.
Ah bon ? Vous diriez pour les esprits faibles ? Peut-être y a-t-il de plus en plus d'esprits faibles qui jouent les esprits forts.
Oui, dans le même sens, dans le même sens que vient de dire Robert, moi je soulignerai le lien de l'enracinement et la philosophie de l'action chez Simone Veil. Il y a une philosophie de l'action créatrice dans l'enracinement qui est très importante, qui l'a fait appartenir, comme l'a très bien dit Bertrand Saint-Sernin, et là, je crois qu'on est tous d'accord, à l'école française de l'action. Hein. C'est-à-dire à toute cette philosophie qui a lié une théorie de la connaissance et une théorie de l'action, en sortant de cette antinomie entre connaissance et action qui habite un certain néo-kantisme. Et ça, c'est une marque vraiment essentielle du génie de Simone Weil. C'est-à-dire que il n'y a pas chez elle d'opposition entre connaissance et action, comme il n'y a pas d'opposition entre travail et action, par exemple. Je pense ici à Hannah Arendt comme un exemple contrasté. La philosophie de l'action de Simone Weil, ce qu'elle a de caractéristique, c'est qu'elle s'articule à une philosophie du travail, à une philosophie de la religion. Ça, ça la met à distance d'un Heidegger ou d'une Hannah Arendt, par exemple.
Vous dites, ça la met à distance d'une Hannah Arendt, mais Chantal Delsol, je crois, dans le numéro des Cahiers de Lerne, fait un rapprochement très intéressant entre le thème de déracinement chez Simone Weil et le thème de la désolation chez Hannah Arendt. La désolation, l'expérience d'absolue non-appartenance au monde. Mmh. Et Hannah Arendt dit un peu plus loin, être déraciné, cela veut dire n'avoir pas de place dans le monde, reconnu et garanti par les autres. Oui. Et c'est cette appartenance-là aussi, d'une certaine manière, dont parle Simone Weil quand elle défend le milieu vital.
Sur l'analyse des racinements et du totalitarisme, voilà, elles sont toutes les deux dans la même ligne d'analyse, je crois. Mais c'est sur l'aspect positif de la civilisation à construire qu'il y aurait une différence. Parce que l'opposition entre action et travail, qui est cardinale chez Hannah Arendt, elle est impossible chez Simone Weil, et de même l'exclusion de la religion hors du politique. Alors que Simone Weil cherche à réarticuler les deux, Hannah Arendt prend son parti de la coupure moderne. Et c'est très intéressant de voir cela, de l'étudier.
Oui, ça mériterait.
Et je trouve qu'on n'honore pas assez Simone Weil par rapport à Hannah Arendt sur ce plan-là.
Bon, bah, très bien. Voilà un travail à faire, en effet. Alors, je terminerai simplement sur une dernière citation de l'enracinement. Simone Weil définit, justement, dans sa réflexion sur la grandeur, un certain patriotisme, le patriotisme de compassion. Et elle parle du sentiment de tendresse poignante pour une chose belle, précieuse, fragile et périssable. Et ce sentiment, dit-elle, est autrement chaleureux que celui de la grandeur nationale. Peut-être est-ce aussi pour cela que son œuvre a tant d'écho en Europe centrale ou orientale, où les nations sont sans cesse menacées dans leur existence. Mais je voudrais lire cette phrase. « La pensée de la faiblesse peut enflammer l'amour comme celle de la force, mais c'est d'une flamme bien autrement pure. La compassion pour la fragilité est toujours liée à l'amour pour la véritable beauté, parce que nous sentons vivement que les choses vraiment belles devraient être assurées d'une existence éternelle et ne le sont pas. » Je crois qu'on ne peut pas dire les choses de manière précisément plus belle. Et espérons que l'enracinement aura sinon une existence éternelle, mais une longue existence en dépit des esprits faibles. Merci beaucoup Robert Chenavier, merci Emmanuel Gabellieri.
Merci à vous.
Je voudrais d'abord rappeler la parution d'un cahier Simone Weil aux éditions de Lerne, dont vous avez été le maître d'œuvre avec François Livenet, Emmanuel Gabellieri, et aussi précisément la réédition de l'Enracinement dans le cadre des œuvres complètes de Simone Weil. C'est le tome 5, écrit de New York et de Londres, et vous êtes occupé de cette édition avec Patrice Roland, Robert Chenavier. Vous trouverez toutes les références bibliographiques sur le site réplique franceculture.fr où l'émission est téléchargeable un an et réécoutable 1000 jours. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et de Didier Lacarde. À la technique aujourd'hui, Philippe Palares. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.